Vous écoutez, on lit pour vous.
Rétrofuturisme thermique à la Chine. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 22 février 2024 dans La Presse. C'est un secteur glauque et désaffecté, enclavé entre des échangeurs de béton décrépit et le canal de la Chine. Un décor post-apocalyptique, prisé autant par les graffiteurs que les équipes de production d'Hollywood. C'est aussi un quartier qui pourrait devenir le laboratoire du Québec en matière de décarbonation après une longue gestation de 9 ans et une farandole de consultations citoyennes. Trêve de suspense. Il se trame de grosses affaires à la Chine et on est loin ici du verbiage écolo. Cet arrondissement montréalais souhaite construire une petite centrale thermique reliée à un vaste réseau souterrain qui alimenterait à terme 7 800 habitations dans un tout nouveau quartier. Un partenariat public-privé, PPP, est envisagé pour bâtir le réseau et produire l'énergie, avec des gains estimés à 135 millions de dollars d'ici 2050. Le berceau industriel du Canada au 19e siècle espère être aux premières loges de la révolution énergétique du 21e siècle, rien de moins. J'ai passé un bon moment à analyser le projet avant de vous en parler. Il y a à Montréal de ces patentes participatives qui visent l'Everest écologique, mais sont peu applicables sur le terrain ou outrageusement ruineuses, souvent un mélange des deux. Ce n'est pas le cas ici. La lente gestation du projet d'écoquartier La Chine-Est aura en fin de compte été une bénédiction. Car les objectifs environnementaux visés au départ, en 2014, sont aujourd'hui couplés à la nouvelle réalité bien plate et concrète de 2024, la fin imminente des surplus d'électricité. La situation est à ce point critique qu'Hydro-Québec doit aujourd'hui faire des arbitrages entre les nouveaux projets qui pourront être branchés ou non à son réseau. On l'a vu lundi avec l'annulation d'un investissement de 500 millions à Saint-Bruno-de-Montarville sur la rive sud. Et encore le mois dernier, avec ce quartier de 3 800 logements dont le sort est plongé dans l'incertitude. Dans ce contexte, la Chine-Est constitue un canevas presque idéal pour repenser l'approvisionnement énergétique en milieu urbain. Son dossier d'affaires est aujourd'hui beaucoup plus solide qu'il ne l'aurait été il y a 9 ans. Commençons par situer l'affaire. C'est ici, à la Chine-Est, que sont nés plusieurs grands groupes industriels sidérurgiques dans la deuxième moitié du 19e siècle. Des géants industriels qui employaient à leur apogée des dizaines de milliers de travailleurs. Dominion Bridge, Stelfil, Jenkin Brothers. Le secteur a décliné à partir des années 1970, puis a connu une relance avortée dans la dernière décennie. Un projet du promoteur déchu, Paolo Catania, s'est conclu par une faillite et d'immenses terrains contaminés toujours en friche. Une tour de condo à moitié construite à l'abandon témoigne de ce fiasco. Le projet d'écoquartier proposé en 2014, aussi grand qu'une centaine de terrains de football, a cheminé lentement mais sûrement. 2 études ont été livrées à l'arrondissement de la Chine, dont la plus récente, pondue par la firme d'ingénierie GBI, date de 2023. Les conclusions sont claires. La mise en place d'un réseau thermique urbain, RTHU, a un bon potentiel, tant sur le plan technique que financier. On ne parle pas ici d'un objet du futur tiré d'un épisode de Star Trek. Ce type de réseau, souvent alimenté par la géothermie, existe depuis des décennies un peu partout dans le monde. Il y a quelques exemples assez compacts au Québec, comme à l'écoquartier du Technopôle Angus, dans l'est de Montréal. 4 immeubles ont été reliés entre eux par une boucle énergétique qui permet en gros de faire circuler l'air chaud et froid entre les différents immeubles et de réduire considérablement la consommation d'électricité. À la Chine-Est, plusieurs sources sont envisagées pour alimenter la centrale thermique ou un réseau de petites centrales. Entre autres, des puits géothermiques creusés profondément dans le sol, la récupération de la chaleur des égouts ou encore la récupération de la chaleur produite par un poste électrique d'Hydro-Québec situé à proximité. Les études laissent entrevoir une réduction de la consommation d'électricité allant jusqu'à 50 % dans le futur quartier. C'est énorme. Quelques formes de gouvernance sont envisagées pour la construction et l'exploitation du réseau thermique. On parle soit d'un PPP, soit d'une société d'économie mixte. Dans les deux cas, la Ville de Montréal serait l'actionnaire majoritaire en partenariat avec des entreprises privées ou sociétés d'État. La forme finale reste à déterminer, mais le projet vient de passer à une autre étape. L'arrondissement de Lachine, dirigé par la mairesse Maya Vodanovic, a mandaté l'Institut des villes de nouvelle génération de l'Université Concordia pour réaliser une étude de faisabilité encore plus concrète de ce RTHU. C'est pendant cette phase que les aspects plus techniques du réseau seront déterminés, entre autres les sources d'énergie préconisées et l'emplacement de la centrale thermique. Cet institut, assez méconnu du grand public, a été fondé en 2020 et regroupe 200 chercheurs. Il est dirigé par la sommité allemande Ursula Ecker, titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes. Le centre de recherche de Mme Ecker suscite un vif intérêt. Il fait partie des projets financés par une subvention historique de 123 millions de dollars accordée par le gouvernement fédéral à l'Université Concordia en avril dernier. La chercheuse, auteure d'une demi-douzaine d'ouvrages sur la décarbonation des bâtiments et les énergies renouvelables, m'a expliqué en long et en large les bénéfices des pompes à chaleur, panneaux solaires et autres réseaux thermiques urbains dans un petit café de la Chine Est. Elle, comme bien d'autres experts, prône ces solutions depuis des années. Mais je vous résume grossièrement son argument massue qui devrait entraîner l'adoption rapide de ces technologies au Québec. Le party de l'électricité au rabais achève. Les réserves d'Hydro-Québec, dans 2 ou 3 ans, c'est fini. Personne n'aime parler du fait que ça va devenir plus cher, mais ça va devenir plus cher, affirme Ursula Ecker. L'arrondissement de la Chine a déjà commencé à préparer les plans d'infrastructure du futur quartier. La planification du RTHU est faite en même temps que celle des égouts et autres éléments souterrains, puisque tout devra être creusé en même temps. Le début de la construction est prévu en 2025. Ce projet devrait être bien accueilli à Québec, selon moi. Tant Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie, que Michael Sabia, grand patron d'Hydro-Québec, répètent depuis des mois qu'il faudra diversifier les sources d'énergie pour répondre à la demande et accélérer la décarbonation de la province. Voilà un exemple assez bien ficelé, servi sur un plateau d'argent. C'était « Rétro-futurisme thermique à la Chine », un texte de Maxime Bergeron, paru le 22 février 2024 dans La Presse.
Tous les chantiers en temps réel sur une nouvelle plateforme, un texte de Henri Ouellette-Vézina, paru le 29 janvier 2024 dans La Presse. Critiqué pour la difficulté à s'y retrouver dans les nombreux chantiers, Montréal déploiera ce lundi une nouvelle carte interactive permettant de visualiser tous les travaux en temps réel, tant ceux de la ville que ceux du privé ou des particuliers. On veut que les gens et les commerçants sachent ce qui se passe devant chez eux, qui fait les travaux et pour combien de temps, avec quels impacts. On le fait dans une volonté de transparence, mais aussi pour amener plus d'imputabilité à ceux et celles qui mènent le chantier, a expliqué à la presse la responsable des infrastructures au comité exécutif, Émilie Thuillier. Cette nouvelle carte permettra d'effectuer une recherche avec une adresse précise afin de voir les entraves à un niveau très local, ou encore par quartier, voire par arrondissement. Avec plus de 200 chantiers répertoriés, le secteur du centre-ville y apparaît d'ailleurs sans surprise comme le plus touché par les chantiers. L'outil rendra aussi possible de filtrer les recherches par zone touchée des rues, des pistes cyclables, des trottoirs, des parcs ou des ruelles. Enfin, on pourra catégoriser les chantiers par « responsables des travaux », notamment des organisations publiques comme Hydro-Québec, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs privés ou encore des particuliers. Cette carte représente une avancée importante. Jusqu'ici, le site Info Travaux ne permettait de voir que les chantiers actifs de la ville, qui représentent entre 25 et 40 % des chantiers actifs dans la métropole. Les données seront tirées de la plateforme Agir, par laquelle Montréal procède à l'attribution de permis d'occupation de l'espace public. Environ 55 000 permis y sont délivrés chaque année, dont 20 000 dans Ville-Marie seulement. Ça fait en sorte qu'on va avoir pas mal tous les chantiers en temps réel. Et le principal avantage, c'est que la carte va se générer automatiquement au fur et à mesure, dit Mme Thuillier. Quand on comprend pourquoi un chantier est là rapidement, il y a comme la moitié de la frustration qui a disparu. C'est majeur pour nous, et on pense que ça va réellement aider tout le monde, soutient Émilie Thuillier. M pour modernisation. Au service administratif de la ville, le porte-parole Philippe Sabourin espère surtout que la nouvelle plateforme offrira aux citoyens plus de trajets où ils ne rencontreront pas ou peu de chantiers sur leur chemin. C'est un peu aussi l'objectif, tout en réduisant le nombre de chantiers mal entretenus ou bruyants, dit-il à ce sujet. C'est une avancée majeure en matière de modernisation, mais c'est un premier pas. Après, il y a des choses qu'on pourrait ajouter plus tard, comme des fermetures de rues piétonnes pour des événements festifs, par exemple. On a énormément de données sur ce qui se passe dans la rue, poursuit M. Sabourin. Le tout survient alors que, depuis le sommet sur les chantiers, en mars dernier, Montréal a été autorisé par le ministère des Transports à remplacer ses cônes par des bollards de plus petite taille ou d'autres éléments moins perturbants. L'administration Plante impose aussi maintenant l'installation de la signalisation 24 heures avant un chantier et son retrait 24 heures après, en plus de démobiliser les zones de travaux inactives pendant plus de 5 jours. Québec, de son côté, ramasse dorénavant les cônes au bout de 72 heures d'inactivité sur un chantier. Depuis décembre, le gouvernement installe de plus en plus des glissières métalliques plutôt que des cônes sur ses chantiers. Un autre gain, obtenu de hautes luttes avec le gouvernement, rappelle quant à elle Émilie Thuillier, a été de réduire la longueur des biseaux en milieu urbain. Montréal a en effet obtenu ces derniers mois une modification des règles du ministère sur la longueur de la zone de transition qui indique l'entrave dans les rues de 40 km/h et moins. Ça représente environ 70 % des rues locales de Ville-Marie où on pourra réduire les cônes de moitié, note M. Sabourin. Dans l'immédiat, toutefois, la situation ne semble pas réellement s'améliorer. En mars dernier, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, CCMM, révélait, dans une mise à jour de son diagnostic sur les chantiers, que près d'un cône orange sur 5 est encore inutile au centre-ville. Mais surtout, avait insisté l'organisme, environ 93 % des artères y ont été entravées partiellement ou totalement dans la dernière année, soit un portrait relativement similaire à celui de l'an dernier. C'était « Tous les chantiers en temps réel sur une nouvelle plateforme », un texte de Henri Ouellette-Vézina, paru le 29 janvier 2024 dans la presse.
Cinq indices pour détecter l'éco-blanchiment. Un texte de Nathalie Ainsley, paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage. Afin d'influencer nos achats, plusieurs entreprises usent de psychologie et d'ingéniosité pour mettre en valeur de fausses vertus environnementales. à tel point que 40 % des prétentions écologiques de produits et services commercialisés sur le Web seraient trompeuses, confuses ou illégales, selon un relevé du Réseau international de protection des consommateurs. Comment détecter l'éco-blanchiment? 1. L'habit ne fait pas le moine. Le bleu et le vert, associés à la quiétude et à la beauté des espaces naturels, sont fréquemment utilisés sur les emballages et dans les publicités pour évoquer un sentiment de confiance envers une marque. De même, les images de paysages, de plantes et d'animaux font émerger des émotions positives, renforçant notre attirance pour un objet. Méfiez-vous des apparences. Pour faire des choix éclairés, analysez les caractéristiques réelles du bien convoité. Est-il durable? Quelle distance a-t-il parcouru? 2. Les éco-étiquettes bidons. Faites confiance aux certifications légitimes qui sont rigoureusement contrôlées par des organismes indépendants tels EcoCert, Ecologo, Énergie Star, Biologique Québec ou Canada, Fair Trade Certified ou Forest Stewardship Council, FSC. Cependant, ne croyez pas que toute allégation accompagnée d'un cercle vert est crédible. Certaines industries sont très créatives. Comme dans les exemples suivants, de faux logos peuvent être facilement conçus à l'aide de logiciels de dessin. Vous doutez? Consultez le site web de l'organisme de certification en question ou la liste des éco-étiquettes reconnues par le gouvernement du Québec. Site web environnement.gouv.qc.ca/development/éco-étiquette. 3. Les qualificatifs ambigus. Pur, naturel, écologique et d'autres termes galvaudés ne sont pas définis de manière universelle et leur utilisation n'est pas réglementée. En conséquence, une compagnie peut se prétendre éco-responsable ou présenter sa nouveauté comme étant écologique en se basant sur ses propres critères. La marque de votre démaquillant contient le mot « bio » ? Ça ne veut malheureusement pas dire grand-chose. Ne pas confondre avec les certifications biologiques alimentaires, qui sont fiables. En outre, le caractère « naturel » d'un produit ne garantit pas qu'il soit bénéfique pour vous ou pour la planète. Généralement, cela signifie que certains ingrédients proviennent de sources naturelles, mais le produit peut aussi contenir des additifs et des substances transformées. Quand on y pense, tout est naturel. L'eau, l'arsenic, de même que le gaz naturel, qui est une énergie fossile contribuant au réchauffement planétaire et à la pollution de l'air. 4. Les belles paroles. Maintes affirmations semblent positives au premier abord, mais ont un effet minime dans la réalité. On l'observe dans le domaine de la mode rapide, où des gestes bons pour la planète sont souvent mis en avant. Pourtant, le modèle économique de cette industrie repose sur les ventes toujours croissantes de vêtements, entraînant des conséquences sociales et environnementales dévastatrices. C'est le cas aussi d'une compagnie qui vante ses emballages recyclables, mais qui n'apporte aucune amélioration à ses méthodes et rejets de production. Repérez également les promesses écologiques qui fournissent peu de détails ni aucune preuve vérifiable, comme « nous utilisons des matériaux sans danger pour la planète » ou « nous nous engageons à diminuer notre empreinte de 20%. » Quelles sont les bases de référence et les méthodes de calcul utilisées? 5. Les mythes entourant les gaz à effet de serre, GES. Il est impossible de totalement éliminer les émissions de GES dans les activités commerciales, ainsi que dans les chaînes d'approvisionnement et de production. Soyez donc sceptiques devant les prétentions telles que « faible en carbone » et les engagements de réduction de GES qui ne concerne souvent qu'un procédé ou qu'une étape du cycle de vie d'un produit. Même chose pour la déclaration de carboneutralité, puisque cela repose généralement sur la compensation, notamment par la plantation d'arbres et non la réduction des émissions. Sachez également qu'une entreprise peut diminuer ses GES tout en continuant à surexploiter les ressources, à générer de grandes quantités de déchets, à polluer l'air, l'eau et les sols. Pour y voir plus clair, protégez-vous à développer le décodeur, un excellent outil qui passe au crible les logos, les éco-étiquettes et les ingrédients des produits cosmétiques. Pour détecter l'éco-blanchiment, consultez les sites web des entreprises et n'hésitez pas à leur demander des précisions sur leurs efforts de réduction de leur empreinte. Retenez que même vêtu de vert, chaque objet que vous achetez affecte l'environnement, depuis son extraction et sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Un produit respectueux de la nature est avant tout local, de qualité, indémodable, réutilisable et réparable. Dès lors, le meilleur achat que vous puissiez faire est celui que vous évitez. C'était 5 indices pour détecter l'éco-blanchiment, un texte de Nathalie Ainsley paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage.
Je préférerais ne pas faire naufrage, un texte de Patrick Lagacé paru le 28 janvier 2024 dans la presse. Il y a quelques années, j'ai profité de la mort de David Bowie pour écrire dans la presse que je me verrais bien mourir à 69 ans, moi aussi. Il y avait eu un petit tollé dans ma messagerie. J'avais expliqué que 68-69 ans, c'était à peu près l'espérance de vie en santé pour un homme dans ce pays, ça dépend des façons de calculer aussi, et qu'il ne me déplairait pas de mourir très exactement à cet âge pour éviter les naufrages de la vieillesse, mon général. Après 69 ans et des miettes, statistiquement, les morceaux commencent à s'effriter. Vous êtes hors garantie, et si vous espérez contracter une assurance prolongée, il fallait commencer à manger des fruits et légumes bien avant 69 ans, sans oublier vos 20 minutes minimum de cardio par jour. Cela avait insulté bien des lecteurs approchant de cet âge ou l'ayant dépassé et qui se disaient en pleine forme. J'avais été particulièrement ébranlée par le message d'un de ces papis pétants de santé qui m'avait suggéré de me suicider en me promettant d'aller pisser sur ma tombe. J'avais trouvé ça un peu excessif, mais ce monsieur annonçait parfaitement les crinqués de la pandémie qui sont sortis de Facebook comme les zombies sortent des sous-bois. Bon, où m'en allais-je avec ma marchette? Ah oui, l'espérance de vie n'est pas le curseur idéal quand on parle de vieillir. Il faudrait regarder l'espérance de vie en santé. Là, les gains sont moins grands. Ce qui m'amène aux nouvelles concernant les vieux ces derniers jours. Je résume. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il ne fait pas bon vieillir, pas plus qu'en 2016. Je ne parle pas ici des morceaux qui commencent à tomber. Je parle de la société. Mes collègues, Katia Gagnon et Ariane Lacourcière, ont exploré la vague de fermetures dans les résidences privées pour aînés en 2023. 77 RPA ont changé de vocation, 2700 places se sont évaporées. Hausse des coûts, problèmes de recrutement de personnel, les facteurs habituels expliquent ces fermetures, alors que le pic de vieillissement de la population n'est pas encore atteint, il le sera en 2031. Résultat net et cruel, des vieux sont évincés. Des très vieux aussi. Monique Lozeau, parent, a dû déménager à l'âge de 97 ans. Heureusement, elle était bien entourée, sa famille s'est mobilisée pour lui trouver un autre chez soi, à 1 000 $ de plus par mois. On parlera un autre jour de ces résidences pour vieux haut de gamme, à 5 000, 6 000 ou 8 000 par mois, les RPA de luxe. Tu mets de l'argent toute ta vie de côté pour payer plus cher qu'une mensualité de prêt hypothécaire quand t'es vieux. Ça ne donne pas envie de vieillir trop longtemps, mettons. Toujours la semaine dernière, la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguet, a présenté un rapport montrant les carences en maintien des vieux à domicile. Le système actuel, dit-elle, va crouler sous son propre poids, financièrement parlant. Garder les vieux à la maison est pourtant payant pour la société et pour les vieux individuellement. Je souligne qu'en 2031, pic du vieillissement, 25 % des Québécois auront 65 ans et plus. Ça fera beaucoup de vieux qui auront besoin de beaucoup de services de toutes sortes. On peine à s'occuper de nos vieux actuellement à 20 % de la population. Qu'en sera-t-il dans quelques années? Bref, physiquement, les années au-delà de 69 ans sont statistiquement une longue gestion de bobos. Et collectivement, on s'occupe moyennement bien de nos vieux. Je ne sais pas si à 97 ans, j'aurai assez de résilience pour me trouver un autre appartement. Je n'aurai probablement pas assez de résilience pour trouver la télécommande sous le pouf du salon à cet âge. Je consulte encore ma chronique sur mourir à 68-69 ans. Je remarque la date, 2016. J'aurais juré, comme je l'ai écrit au début de la chronique, que vous lisez en ce moment, que c'était il y a quelques années à peine. 8 ans, je vous le demande. Est-ce il y a quelques années? 8 années qui ont passé si vite, un claquement de doigts. Dans 8 ans, j'en aurai 60. Dans 2 claquements de doigts, donc, j'en aurai 68, à 1 an de la fin de ma garantie. Je me regarde aller ces jours-ci à multiplier le cardio et à doubler mes portions de légumes et de fruits. Je tiens mes résolutions de quinquagénaire. C'est contradictoire, au fond. Plus je passe de temps à 150 battements par minute, plus je mange de bleuets et de brocolis, plus je prends les moyens pour dépasser les 68-69 ans, et découvrir les naufrages de l'âge avancé, faudrait que je me branche. J'ai encore quelques années pour me faire une tête. C'était « Je préférerais ne pas faire naufrage », un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 janvier 2024 dans la presse.